Voilà, donc l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église. Et puis ensuite, j'allais dire, c'est comme de faire un zoom un peu sur une notion, enfin plutôt c'est un couple de notions qui sont souvent articulées ensemble, donc destination universelle des biens et propriété privée. Donc d'abord, la doctrine sociale de l'Église. Alors, la doctrine sociale de l'Église, on va voir que c'est, quand on parle de doctrine sociale de l'Église, on parle d'un corps de doctrine, d'un ensemble de textes du magistère, dont le premier est Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII en 1891. Mais, j'allais dire qu'il faut prendre un petit peu de recul pour s'intéresser au domaine dans lequel s'inscrit la doctrine sociale de l'Église, et ce domaine, c'est ce qu'on appelle la théologie morale sociale. Donc la théologie morale, vous voyez tout ce que c'est la question du bien à la lumière de la foi. Voilà. Quel est le bien à faire? Comment je découvre le bien à faire? Comment je peux l'accomplir? Tout ça, c'est la question de la théologie morale. Et la théologie morale sociale, alors dans une première approximation qu'on fait souvent, on dit bon, bah, il y a la morale personnelle, familiale. Souvent au séminaire, on l'enseigne, on dit bon, là, il y a la théologie morale sexuelle et familiale, et puis la morale sociale, ce serait ce qui dépasse le cercle de la famille. Bon, c'est une première façon de distinguer les choses, en disant ben, voilà, il y a la société dans son ensemble. Bon, mais en fait, c'est pas très très juste. Pourquoi? Parce qu'en fait, même les actes que je pose pour ma propre vie ou celle de ma famille, de toute façon, ils s'inscrivent dans une société plus large. Donc j'allais dire, même quand on réfléchit à des questions de morale familiale, si on parle du mariage ou des questions de bioéthique, ces questions-là, elles ont toujours une dimension sociale. Parce que voilà, l'homme s'inscrit, on a tous un corps physique, et puis on est né dans une famille, on est né dans une culture, on est né dans une nation. Et donc on ne peut pas faire comme si, hein, c'est l'abstraction de l'homme libéral, l'individu comme ça, ben, ça n'existe pas. On s'insère tous dans un réseau social, un réseau de relations humaines qui nous précède, qu'on n'a pas choisi, au moins pour une part. Et donc, ça veut dire que tous mes actes, hein, puisque mon être est partiellement, on va dire au moins, déterminé par ce contexte social, donc ça c'est un premier élément, ça veut dire que ma façon de voir le monde, ma façon de comprendre le bien, eh bien, elle est partiellement déterminée par la société à laquelle j'appartiens. D'accord? Alors, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et puis, en retour, les actes que je pose, ils ont des conséquences sociales. On sait très bien, voilà, aujourd'hui, on a tous conscience que des actes comme acheter, consommer, hein, acheter une paire de chaussures, ben, on sait que ça a une portée sociale. Ben, elles sont fabriquées par qui, dans quelles conditions, etc. Donc, vous voyez, ce lien, en fait, n'importe lequel des actes libres que je pose, il est effectué dans le cadre de, voilà, dans une société, et puis il a des conséquences sociales. Donc il y a une interdépendance importante. Alors je vous ai mis une citation de Jean-Paul II qui dit ça dans une des encycliques sociales qui s'appelle Centesimus Annus. Donc vous comprenez le titre parce qu'elle a été écrite en 1991, donc pour les 100 ans de Rerum Novarum. Et Jean-Paul II dit: l'homme est conditionné par la structure sociale dans laquelle il vit, par l'éducation reçue et par son milieu. Ces éléments peuvent faciliter ou entraver sa vie selon la liberté. Alors, dans quel sens ça peut faciliter ou entraver? Bien, tout simplement, ma conscience, elle se forme à travers aussi l'éducation que je reçois. On n'est pas complètement déterminé, c'est-à-dire que même si je vis dans une société où j'ai reçu des règles éthiques qui ne sont pas justes, je prends par exemple, bon, si vous êtes né dans une famille, mettons, mafieuse sicilienne, ben, vous avez appris que la base c'est l'honneur et que si on tue ton frère, il faut que tu tues tous les frères du gars qui a tué ton frère. C'est la base, j'allais dire, c'est le bien à faire. C'est ce que te commande l'honneur et en dessous, c'est pas juste, quoi. Voilà, tu fais pas le bien. Donc on voit que c'est ce qu'on appelle une conscience obscurcie, d'accord, en termes moraux. C'est-à-dire que, ben voilà. Alors, on n'est jamais complètement déterminé. C'est-à-dire que si un jour, voilà, cet homme-là qui a grandi dans cette famille-là, ben, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui l'aime qui va mourir, ou j'en sais rien, tout à coup, ou il va ouvrir l'évangile, surtout s'il est sicilien, il y a peut-être une église à côté, où il va entendre le pape François qui parle de la mafia, et il va dire, tiens, quand même, il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment là, et voilà, et que sa conscience ne sera pas voilà, indéfiniment aveuglée. Donc on voit bien que, c'est ce que dit le pape, hein, ces éléments peuvent faciliter ou entraver sa vie selon la vérité. Les faciliter, bah, au contraire, si je suis né dans une famille où on m'a appris à vivre la justice, la charité, à regarder chacun comme une personne, à ne pas faire acception des personnes, à être capable d'accueillir n'importe qui, bah, tout ça, c'est, évidemment, ça va m'aider à répondre à ma vocation à la sainteté. Et en fait, vous voyez, ça va dans le bon sens, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc ça, j'allais dire, c'est vraiment au niveau moral et social. Donc, vous voyez, la théologie morale sociale, elle veut envisager ça. Et d'ailleurs, si je restreins mon champ à moins, j'allais dire, évidemment, si je considère juste, par exemple, la question de l'acte moral dans ma famille, eh bien, je vais manquer des éléments importants qui peuvent, voilà, qui peuvent en fait avoir un grand poids dans mon jugement moral. Alors, aux étudiants, je donne un exemple qui est le système matrifocal antillais. Alors, c'est un système familial hyper spécial qui, en fait, est hérité de l'esclavage. Parce que dans le code noir, quand les enfants sont liés avec la mère. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une famille et qu'on vend le père, les enfants restent avec la mère. Et du coup, ça a généré, c'est très impressionnant, parce que c'est sur des générations, ça a généré un système familial et une vision de la famille dans laquelle on ne peut pas faire confiance à l'homme. Et il y a des mots d'ordre comme ça. Alors, ce n'est pas un système matriarcal exactement, parce que ce n'est pas la femme qui a toute la responsabilité sociale. C'est lié à un regard vraiment... Alors, la femme dit, par exemple, « Je suis le père, je suis la mère ». Voilà, c'est des mots d'ordre comme ça. Il y a des sociologues qui ont étudié ça précisément. Et vous voyez, du coup, on ne peut pas faire confiance à l'homme. Alors, après, on va dire « L'homme entier est volage », par exemple. Ou des choses comme ça. Et donc, on va porter des jugements en termes de morale sexuelle et familiale qui font abstraction de la société, de l'histoire. Et en fait, on va se planter. On va se planter. Parce que les sociologues eux-mêmes qui étudient ces familles disent « Mais non, en fait, les jeunes entiers aspirent au mariage stable, etc. » Vous voyez, c'est intéressant cet exemple, parce qu'en fait, il est hérité d'actes individuels. C'est-à-dire qu'on a construit une société esclavagiste à partir d'actes individuels, hein, voilà, qui ont fini par, en retour, générer une vision de la famille et de l'homme qui perdure encore aujourd'hui alors que le système n'existe plus. Vous voyez, l'importance, c'est pour un exemple qui veut donner un peu le poids de cette question-là. C'est vraiment important. Donc, j'ai mis une autre citation qui va un peu aussi accueillir ce que dit notre foi. Alors, aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie en ce que je pense, dis, fais, réalise, et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Alors, dans cette citation, vous entendez ce qu'on appelle la solidarité, hein, de la famille humaine, et aussi, au point de vue théologique, la communion des saints. C'est le fait que, effectivement, quand je pêche, alors la première victime du péché, c'est le pécheur, mais et puis il y a ceux qui sont autour de moi, et j'allais dire, par cette réalité, cette interdépendance très forte entre les êtres, eh bien, je sais que, j'allais dire, je tire, entre guillemets, si vous voulez, pour faire simple, je tire tout le monde vers le bas, quoi. Voilà. Donc nul ne pêche seul, c'est ça que ça veut dire. Même le péché que je fais dans mon coin, en me disant bah, « de toute façon, ça ne regarde que moi » et tout ça, bah, en fait, je me blesse, c'est sûr, mais je blesse l'Église et je blesse en fait le corps de l'humanité. Il y a ce lien fort. C'est la question du péché originel. Comment est-ce qu'un petit enfant qui n'a jamais posé d'acte mauvais, libre, eh bien, il est marqué par quelque chose qui le précède et qui est lié à la solidarité de la famille humaine. Mais dans l'autre sens, et c'est ça la bonne nouvelle, et de façon bien plus puissante que du côté du péché, le bien que je fais, hein, c'est par un homme que l'humanité est sauvée, par le Christ. Donc en fait, dans l'ordre du salut, nous sommes liés les uns aux autres. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on sait que dans notre vocation chrétienne, en étant unis au Christ et en vivant avec lui, on participe au salut du monde entier. C'est-à-dire que l'acte bon que je pose, même dans mon coin tout seul, eh bien en fait, il participe au salut de l'humanité. Voilà. Et donc, bon, pour aller voir les textes de saint Paul là-dessus, je vais... Mais c'est juste pour avoir ça en tête et comprendre pourquoi est-ce qu'on se pose des questions de morale sociale. Vous voyez ? C'est parce qu'on a cette ampleur de vue, là. Et c'est parce que, du coup, quand on veut être chrétien et qu'on cherche le bien, il faut aussi qu'on soit évangélisé, non seulement dans notre agir individuel, familial et tout ça, mais aussi à la dimension de la société. Et autant dire que c'est quand même super complexe, parce que, évidemment, ces réseaux de relations, déjà un couple, c'est pas simple, une famille avec des enfants, des grands-parents, voilà, des relations, belle-fille, belle-mère, fils, beau-père, tout ça, bon, c'est compliqué. Mais alors, la société, évidemment, puis on est dans des sociétés, alors on peut réfléchir à la société nationale, mais elle est insérée maintenant dans des relations très étroites, une interdépendance internationale. On voit évidemment que c'est très complexe, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer qu'on ne doit pas en tenir compte, en fait. Alors, la doctrine sociale de l'Église, oui, encore peut-être un mot. En fait, je voudrais insister aussi sur le fait que ce domaine-là, dans la vie des chrétiens, souvent, les chrétiens n'ont pas toujours la conscience que ce domaine-là, ou leur regard sur la société, les institutions, etc., toutes ces questions que je vais évoquer, a besoin d'être évangélisé. On a conscience que nos relations interpersonnelles, comme ça, on a dit, la charité, que j'accueille l'autre, que j'apprenne à l'accueillir comme il est, à l'aimer, à chercher son bien, etc., à le respecter. Et puis à côté, on peut avoir une vision de la nation, par exemple, c'est mon sujet d'étude, donc une vision de la nation qui soit très païenne, en fait. Vous voyez ? Ou au contraire, ou le fait simplement que les chrétiens ignorent parfaitement ce que l'Église enseigne sur le sujet. Et donc ils sont... Alors ça, c'est une forme de déséquilibre, en fait, très, très classique, sans faire de caricature, mais quelqu'un qui est très au clair sur ce que dit l'Église dans le domaine bioéthique. Voilà. Et puis dans le domaine social, la propriété est un droit absolu, ou je sais pas quoi, dans un sens ou dans un autre, en disant la nation a aucune légitimité, ou au contraire, la nation, communauté nationale, c'est la fin de la vie, finalité de la vie politique, et puis au-delà, c'est du blabla, droit de l'homisme et compagnie. Enfin, donc il y a des regards. On a besoin de se laisser évangéliser aussi dans notre regard sur la société. Et si, comme chrétien, on décide vraiment de chercher et de se laisser retourner par l'Évangile dans ce domaine-là, on va être de meilleurs témoins de l'Évangile. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est ça l'enjeu. Alors, vous voyez, je vous ai mis un petit tableau. Alors, j'ai pas mis évidemment tous les documents de la doctrine sociale de l'Église, j'en ai mis quelques-uns. Ce que veut dire d'abord ce premier document, c'est pour comprendre que la doctrine sociale, c'est un corps de doctrine actualisé, mais qui s'est formé, j'allais dire, par couches ou par strates successives à mesure que l'Église a réfléchi sur des questions sociales. Et on pourrait dire, mais en fait, elle a commencé à réfléchir bien avant, parce qu'on n'a pas attendu le 19e siècle pour réfléchir à ces questions. Destination universelle des biens et propriété privée, saint Thomas en parle très bien, d'accord ? Il l'articule très bien. Pourquoi est-ce que, comme ça, fin 19e, apparaît un genre littéraire nouveau qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église ? Comment ça se fait, en fait, que ça arrive à ce moment-là ? Alors même que les thèmes en question, ou la question de la guerre, le recours à la violence, tous les développements autour de la guerre juste, toutes ces questions-là, de l'autorité, du sens de l'autorité, de la légitimité de l'autorité, c'est des questions qui sont creusées, évidemment, par les chrétiens à partir de l'Évangile de bien avant le 19e. Alors, ce qui est nouveau, pour le dire un peu rapidement, mais c'est la conscience et l'avènement de la société comme acteur en tant que tel. C'est la conscience qu'en fait, la société, elle se façonne. Voilà. Et que collectivement, on peut façonner la société à partir de telle vision, de telle idéologie. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et que du coup la société, alors c'est aussi lié à la position de l'Église par rapport à la société, on n'est plus dans une société voilà, où le lien entre l'Église et le pouvoir temporel est très étroit, ou des choses comme ça, parce que quand l'Église avait un message à faire passer au plan politique, ben, elle s'adresse au prince avant. Elle lui dit, ben non, il ne faut pas faire ça, ou voilà, des choses comme ça. Il y a un dialogue entre l'Église et le prince. Mais là, j'allais dire, le souverain, c'est la société, hein, dans les démocraties libérales. Donc ça veut dire que maintenant, l'Église a un nouvel interlocuteur, si vous voulez, pour le dire un peu simplement, qui est la société. Et l'Église va s'adresser à la société. Et elle le fait aussi parce que la société, quand elle se saisit d'elle-même pour orienter son histoire, son destin, eh ben, elle va chercher des réponses. Le 19e siècle, c'est le siècle des grandes idéologies. Et donc on dit, mais très bien, on voit les problèmes sociaux, eh bien, on va tâcher de les expliquer. Et Marx va dire, ben, moi j'ai une grille de lecture, je vais vous expliquer pourquoi on en est là, et je vais vous expliquer du coup le sens de l'histoire, comment on va en sortir et par où il faut aller. Voilà. Et ça, c'est nouveau. À ce point-là, c'est nouveau. Et du coup, ben, Rerum Novarum, dans la publication de Rerum Novarum, la question que traite le pape, c'est la question, ce qu'on appelle la question ouvrière à l'époque. Hein, et le pape commence en parlant de la classe prolétarienne, hein, qui est dans une situation de misère imméritée. Donc c'est la question de la justice. Voilà. Une situation de misère imméritée. Donc le pape dit, voilà, ça c'est nouveau comme problème, c'est lié évidemment à la révolution industrielle, tout un tas de circonstances historiques, économiques, sociales. Comme chrétien, comment on comprend ça? Comment on interprète cette situation? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors à côté, on a des philosophes et des gens qui ont réfléchi et qui proposent une grille de lecture, la lutte des classes, etc., et qui proposent une direction, et c'est puissant parce que voilà, on dit ben voilà, je vous donne l'intelligence du fonctionnement social et pourquoi on en est là, et du coup voilà ce qu'il faut faire. On va passer par la dictature du prolétariat, on va viser une société sans classe et sans État, etc. Bon. Ben, comme chrétien, qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'il y a ce discours qui est là, hein. Et donc voilà que le pape écrit cette encyclique pour dire, ben, voilà la situation, voilà comment on la regarde, et voilà peut-être ce qui n'est pas juste, au regard de l'Évangile, ce qui n'est pas juste dans la grille d'analyse marxiste et sa réponse. Alors ça va être creusé dans la suite, mais voilà. Alors je cite un élément, parce que souvent dans ce texte on retient la question de la propriété privée, mais l'erreur capitale, hein, comme on dirait les péchés capitaux, pour Léon XIII, du marxisme, c'est le fait de dire qu'il y a une classe, c'est-à-dire qu'il y a deux classes ennemies, et que du coup, il faut supprimer, en fait, la classe qui oppresse. C'est-à-dire que, comme si, vous voyez, en fait, c'est restreindre les interactions sociales à la dialectique maître-esclave de Hegel, en fait, et bien de dire, ben non, il n'y a pas que ça, et comme chrétien, on ne peut jamais, jamais, jamais dire que la frontière entre le bien et le mal, ou la justice et l'injustice, elle passe entre toi et moi. En disant le coupable, c'est lui. Ça, c'est incompatible avec notre foi chrétienne. Parce qu'on sait tous que la frontière entre le bien et le mal, elle passe là, quoi. D'accord? Et que, j'allais dire, on a tous une démarche de conversion à vivre. D'ailleurs, ça, c'est un grand thème de la doctrine sociale de l'Église, on ne résout jamais les questions sociales uniquement par la transformation des organisations. C'est inséparable d'une conversion personnelle. D'accord? Donc, si... C'est ça le propre d'une idéologie, d'ailleurs. C'est de dire, moi, je vais vous expliquer, on va mettre en place l'organisation qui va supprimer le problème. Bon, ben ça, c'est mensonger, forcément. Parce qu'il y a des personnes avec des libertés, avec des consciences, et que, donc, si on fait abstraction de cette dimension de la conversion personnelle, on va à la catastrophe, on va forger un homme nouveau, et ceux qui ne rentrent pas dans le moule de l'homme nouveau, ben tant pis pour eux, quoi. Donc l'erreur capitale pour Léon XIII, c'est de dire, c'est cette espèce de discours qui dit l'oppresseur est là. Ça ne veut pas dire que ceux qui possèdent des moyens de production et le capital n'ont pas une responsabilité, et peut-être plus grande, certainement, mais de dire, dès qu'on aura supprimé eux, ce sera résolu. C'est contraire. Effectivement, comme chrétien, on doit apprendre, et ça c'est un enjeu, hein, la lutte pour la justice, en comprenant que, en tant que tel, c'est pas l'autre mon ennemi. L'ennemi ultime, hein, c'est le combat qu'on mène, il est spirituel. Ça exclut pas que ça va passer par des luttes politiques, des rapports de force. Très bien. Mais on sait très bien que ultimement et au fond, notre ennemi, c'est l'égoïsme, l'orgueil, et que ça, on lutte tous les jours contre. Voyez. Donc ça, pour le pape Léon XIII, c'est l'erreur capitale. Après, il y a toutes les questions de la propriété privée. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Bon, et donc voilà. Alors, il faut que je fasse attention au timing. Donc, ça, c'est le premier texte. On pourrait dire, peut-être que ce texte-là, il aurait pu être un apax, et puis qu'après, on serait passé à autre chose. Mais en fait, non. Il va être considéré comme tellement fondateur pour les papes qui suivent que tous vont s'y référer en disant, comme s'il y avait un fil à tirer et à approfondir, et là, un discernement à continuer sur les questions sociales. Alors, Léon XIII n'a pas mené ce discernement tout seul. Hein, il l'a fait à partir de ce que faisaient déjà les chrétiens dans différents pays, en France, en Allemagne, en Angleterre, les chrétiens sociaux, les patrons sociaux, enfin voilà, toute une tas de une réflexion qui vraiment qu'il a mobilisée. Hein, il ne l'a pas écrit tout seul. Et puis ensuite, j'ai mis quelques textes, et en fait, il serait facile. On pourrait jouer à dire, bon, vous regardez la date et le titre et tout ça, et puis vous me dites de quoi ça parle. Par exemple, 1931, Quadragesimo Anno, alors le titre c'est facile, hein, c'est en référence à Rerum Novarum, comment ça fonctionne. À votre avis, quels sont les problèmes que que Pie XI va aborder? Allez-y. Hein. La crise financière, bien sûr, d'après la crise financière 28-29. Donc, là, il va y avoir un discernement très fin sur le libéralisme économique. Quoi d'autre? 1931, en Europe. Oui, la montée des totalitarismes. En particulier, le pape, il est à Rome, donc la question du fascisme. Voilà. Donc, il va y avoir aussi un discernement sur cette espèce d'hypertrophie de l'État, et c'est là que va être forgée la notion de subsidiarité. Donc, dans un contexte fasciste, totalitaire, on va défendre les corps intermédiaires, la responsabilité de la famille, la responsabilité la consistance du rôle des syndicats, des mouvements de jeunesse. C'est-à-dire que l'État ne peut pas phagocyter tout ça. D'accord ? Donc, vous voyez, on peut prendre voilà. Et donc, en fonction des questions sociales, politiques du moment, l'Église, elle essaye de discerner à la lumière de l'Évangile. Alors, on va voir, quand on va se demander qu'est-ce que fait vraiment la doctrine sociale de l'Église, en fait, on verra qu'elle elle essaye de forger des critères de discernement. Enfin, le principe de subsidiarité, c'est un critère. Donc, l'Église ne dit pas, dans la doctrine sociale de l'Église, la politique à faire, c'est ça. Jamais. Par contre, en revanche, il arrive qu'elles disent « ça, c'est une impasse ». Le marxisme, voilà les erreurs, c'est une impasse. Mais elle essaye positivement de donner des directives d'action, des critères de discernement, etc. Alors ensuite, 1937, « mit brennender Sorge », c'est pas très dur, c'est une encyclique. Alors on dit, en plus, le titre est en allemand, elle est publiée en allemand, le titre est en allemand, le titre officiel n'est pas en latin, c'est très clair, et si vous connaissez l'histoire de ce texte, assez incroyable, lu le dimanche des Rameaux, 37, dans toutes les églises en chair, et introduit clandestinement à la barbe du Reich, qui se fait complètement avoir et qui est furieux d'avoir laissé passer ce texte qui est lu dans toutes les paroisses, une condamnation du nazisme très claire. Il y a un courrier de l'ambassadeur de France à Berlin qui est catholique, qui est à la messe ce jour-là et qui raconte l'espèce de soulagement général à la lecture du texte, en disant mais enfin c'est le texte qu'on attendait, et qui dit la messe s'est terminée par une communion générale. C'était pas le cas à toutes les messes dominicales de 11h à l'époque. Et là, une espèce d'élan, vraiment une joie à la réception du texte. Donc c'est un texte très important. Pour l'Église allemande, mais il est toujours bon à relire. Il y avait eu l'encyclique qui condamnait le communisme, qui avait été publié juste avant, donc le Reich avait pavoisé en disant voilà, on voit bien qu'on est dans le même camp, voilà. Et puis paf, ils n'ont pas vu venir le deuxième texte. Et qui ont été, les deux ont été publiés exprès, hein, la même année, le même mois, à quelques jours d'intervalle. 1963, alors Pie XII, un grand pape de la doctrine sociale, il n'a pas écrit d'encyclique, hein, il avait d'autres soucis, mais à travers ses radiomessages, hein, le pape, enfin, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale difficile de diffuser sa pensée par la presse écrite, donc à travers des radiomessages qui avaient une forte teneur morale sociale, c'est un des grands papes de la doctrine sociale de l'Église, Pie XII. Sur la question des droits de l'homme, sur la question du bien commun, sur la question de la subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens, enfin tout un tas de thèmes. Donc, bon. Mais on voit 1963, Pacem in Terris, Jean 23, à votre avis. Comment ? Bien fort ? La guerre froide, pardon. Ça colle bien parce que je n'entends pas grand-chose. La guerre froide, exactement. Et on est passé à côté de... pas loin de l'apocalypse nucléaire, donc oui, c'est un problème majeur, il faut, voilà, il faut en parler. Les conditions de la paix, qu'est-ce que c'est que la paix, voilà. Voilà. Alors, voilà, on ne va pas toutes les faire, mais que vous compreniez qu'à chaque fois, en fonction des problématiques qui se posent, l'Église essaye d'approfondir son discernement, et qu'au fur et à mesure qu'elle approfondit ce discernement, que les papes et le magistère approfondissent le discernement de l'Église, eh bien... voilà, elle approfondit des concepts, elle approfondit des critères, voilà, et que à chaque fois c'est repris et approfondi par les papes successifs. Donc voilà ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église, d'accord ? C'est cet ensemble-là. Alors, je vous avais mis quelques extraits, mais comme j'ai explosé mon timing. Dans les extraits, page 2, vous voyez, j'avais mis aussi, parce qu'il y a le magistère de l'Église à travers les encycliques, mais il y a aussi d'autres textes, et ce texte-là, que j'ai mis au milieu de la page 2, c'est le texte de Mgr Milton Gregory, qui était le président de la Conférence épiscopale américaine en 2002. Au moment où les États-Unis préparaient leur engagement militaire en Irak, il a écrit une lettre au président Bush, pour faire, bah, au niveau de son pays, qui s'apprêtait à prendre une décision politique quand même importante et dont on continue de récupérer les conséquences, eh bien, en fait, il a écrit une longue lettre en disant bah, « Ma contribution, comme chrétien, c'est de participer à ce discernement. » Et donc, il reprend les critères de la guerre juste en les appliquant à la situation. Avec, c'est quand même assez audacieux, hein, en disant au président bah, « Voilà, juste cause. » Alors, c'est des extraits hein, que je vous ai mis. « Quel est le casus belli de nature à motiver une attaque militaire contre l'Irak ? Réfléchissons, voilà, etc. Existe-t-il la preuve claire et précise d'un lien direct entre l'Irak et les attentats du 11 septembre, ou la preuve claire et précise d'une attaque grave et imminente ? Est-il raisonnable d'élargir notablement les conditions morales et légales de la guerre juste et d'y inclure l'utilisation préventive et prioritaire de la force militaire pour renverser des régimes qui représentent une menace, etc. » Donc, il pose des questions de façon ouverte en disant bah, « Voilà, est-ce qu'on est dans le cadre de la juste cause ? L'autorité légitime ? Voilà. Existe-t-il une autorité légitime sous laquelle la force peut être employée ? À notre avis, une décision aussi grave ne peut être prise que si elle est conforme aux impératifs de la Constitution américaine. Elle doit faire l'objet d'un large consensus au sein de la nation et doit, sous une forme ou une autre, être avalisée au niveau international, de préférence par le Conseil de sécurité de l'ONU, etc. » Donc, et du coup, il encourage le président à, voilà, à porter la question devant l'ONU et éventuellement avoir l'approbation du Conseil de sécurité. Après, il y a la question des probabilités de succès et de la proportionnalité. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est vraiment un discernement. Vous voyez, je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas le magistère de l'Église universelle, mais c'est à l'échelle nationale voilà, la responsabilité de l'Église que d'apporter sa contribution au discernement politique. Et en fait, ce qui est frappant, hein, quand on lit ce texte, si je vous l'ai mis aussi, c'est qu'il a un caractère prophétique assez étonnant. Voilà. Si vous le lisez de près, c'est assez impressionnant. Donc, pour finir, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église ? En fait, finalement, pourquoi l'Église s'exprime sur des sujets de société ? Alors, de façon négative, on pourrait dire qu'elle le fait pour empêcher ou dénoncer des pratiques ou des idéologies qui sont indignes de la condition humaine. Mais positivement, en fait, c'est un travail de discernement qui est mené à partir d'une étude précise des conditions sociales, économiques, politiques, parce que s'il y a un discernement à poser, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que quand on fait de la théologie morale sociale, bah, il faut commencer par faire de la sociologie, de l'histoire, la politique, pour comprendre la situation. Vous voyez, de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, quels sont les liens, et tout ça, d'où ça vient. Et puis ensuite, pour dire où est-ce qu'on va, parce qu'en fait, c'est ça le grand déficit de la politique aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout ça, hein, l'histoire, la socio, l'éco, les sciences politiques en général, ben en fait, ça réfléchit que à partir du passé. Comment ça pourrait dicter ma conduite présente ? Comment ça pourrait suffire à mon discernement ? Vous voyez l'espèce de gap quand même énorme ? Tout cela m'aide à comprendre le présent, m'aide à comprendre l'histoire, me donne de comprendre des phénomènes, des lois sociales, entre guillemets, si tant est qu'il y en ait, etc. Mais aujourd'hui, là, maintenant, pour le bien à faire, il n'est pas contenu dans les enseignements du passé. Donc, qu'est-ce qui va me conduire, en fait ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui conduit le politique, si vous voulez, pour dire, mais maintenant, hein, si vous discernez, mais on pourrait prendre une analogie avec vos vies personnelles. Vous avez fait des études et tout ça, vous êtes là maintenant, et en fait, à quoi le Seigneur m'appelle ? Bah, votre histoire précédente, vos études et tout ça, ça ne suffit pas à vous dire à quoi le Seigneur vous appelle, quel est le bien auquel vous êtes appelé maintenant. Vous voyez ? Et donc, eh ben, il va falloir se mettre à la lumière de l'Évangile, se rendre disponible. Vous voyez ? Et c'est ce que fait l'Église. Donc ça, c'est le deuxième temps. Il y a le premier temps qui est cette connaissance de la situation et le deuxième temps qui est le discernement moral proprement dit à partir de l'Évangile. Et comme l'Évangile, ben, effectivement, il ne parle pas de la bourse, il ne parle pas de l'arme nucléaire, il ne parle pas de... Voilà, il faut qu'on l'ait bien intégré et qu'on l'actualise et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'il nous éclaire aujourd'hui. Donc ça, c'est... Le but de. Donc en fait, on pourrait dire que le premier but de la doctrine sociale de l'Église, c'est d'orienter, au sens le plus total du terme, de donner une direction à l'agir chrétien, hein, en proposant des principes et des moyens qui permettent aux chrétiens, mais aussi en fait aux citoyens en général, de trouver des solutions justes et vraies aux problèmes du moment. Donc elle propose, c'est ce que je disais, des principes de réflexion, des critères de jugement. Elle traduit en fait la vision chrétienne de l'homme. C'est ça qu'elle fait, la médiation, si vous voulez, entre l'Évangile et nos problèmes sociaux. C'est qu'est-ce que Dieu nous révèle de l'homme et de sa vocation et de son dessein. Voilà. Donc c'est ça que fait la doctrine sociale. Et puis elle s'appuie sur des catégories rationnelles. Et ces catégories rationnelles, elles sont ouvertes à tout homme de bonne volonté. Ce qui fait que la doctrine sociale de l'Église, c'est un lieu de rencontre du monde. Pour dire, c'est même un lieu d'évangélisation. Parce que les principes qu'essayent de forger les chrétiens, ou les critères, ils sont rationnellement accessibles. La dignité de la personne... Alors, dignité de la personne humaine, en revanche, ça va falloir creuser, parce que maintenant, il y a tellement de visions ou de définitions, hein, de ce que c'est que la dignité de la personne humaine, sur quoi est-ce qu'elle repose, etc. Mais subsidiarité et solidarité, propriété privée, destination universelle des biens... Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut rationnellement discuter avec nos contemporains. Et de toute façon, c'est indispensable. Parce que si l'enjeu, c'est bien d'orienter, l'agir social et l'avenir de la société, bah, ça ne se fera pas que à partir des chrétiens. Parce qu'on une petite, un peu de levure dans la pâte. Donc ça veut dire que si on doit s'orienter collectivement dans telle direction... Ben, ça pourrait être à partir de cette discussion qu'on engage avec nos contemporains pour dire, ben, voilà, vous, comment, à partir de quoi, de quels critères vous voulez prendre les décisions. Et à ce moment-là, ben, nous, on peut parler de ces critères rationnels. Et en fait, il faut bien le dire, hein, la charité est rationnelle. et qu'on puisse en discuter avec... Donc c'est vraiment un lieu de rencontre avec nos contemporains, c'est un lieu de rencontre de la société et un lieu d'évangélisation. Alors maintenant, j'ai un peu évidemment explosé mon timing, mais c'est pas grave. Finalement, on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette question de destination universelle des biens et son articulation avec la propriété privée ? C'est quelque chose vraiment qui fait partie du trésor le plus ancien de l'Église. Si vous lisez les pères de l'Église sur la question de l'usage des biens, si vous lisez Saint Jean Chrysostome, c'est radical, hein ? Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, etc. Ils sont pétris de l'Évangile et ils ont un discours, alors qui n'est pas forcément conceptualisé en termes de voilà, cette question de destination universelle des biens, mais tout est déjà là. Saint Thomas a déjà une belle formulation, mais dans la doctrine sociale de l'Église, cette formulation, donc dans le corps de doctrine que je viens d'évoquer, on la trouve sous la plume de Pie XII. Vous avez déjà dit que c'était un grand contributeur. Et c'est lui qui emploie vraiment cette formule de subordination. Donc je vous ai mis quelques extraits en bas de la page 3. Donc il rappelle l'imprescriptible exigence que les biens créés par Dieu pour tous les hommes soient également à la disposition de tous selon les principes de la justice et de la charité. Sans doute, l'ordre naturel venant de Dieu requiert aussi la propriété privée et la liberté du commerce réciproque des biens par échange et donation, comme en outre la fonction régulatrice du pouvoir public sur l'une et l'autre de ces institutions. Tout cela, néanmoins, reste subordonné à la fin naturelle des biens matériels et ne saurait se faire indépendamment du droit premier et fondamental qui en concède l'usage à tous, mais plutôt doit servir à en rendre possible l'actuation en conformité avec cette fin. Voilà, donc... Le pape Pie XII, il emploie cette notion de... Enfin, il exprime très clairement cette articulation à travers la notion de subordination. Donc la propriété privée est un moyen subordonné, ordonné à la fin, à la finalité des biens terrestres, qui est qu'ils sont donnés par Dieu à tous. Alors, on va creuser un peu la question. Pour la creuser, je vais partir d'un autre extrait de la doctrine sociale de l'Église, qui est... un extrait de Centesimus Annus, l'encyclique que j'ai déjà évoquée de Jean-Paul II. Donc, il reprend cette question et il dit « La première origine de tout bien est l'acte de Dieu lui-même qui a créé la terre et l'homme et qui a donné la terre à l'homme pour qu'elle la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est là l'origine de la destination universelle des biens de la terre. En raison de sa fécondité même et des possibilités de satisfaire les besoins de l'homme, la terre est le premier don de Dieu pour la subsistance humaine. Or, elle ne produit pas ses fruits sans une réponse spécifique de l'homme au don de Dieu, c'est-à-dire sans le travail. Grâce à son travail, l'homme, utilisant son intelligence et sa liberté, parvient à la dominer et il en fait la demeure qui lui convient. Il s'approprie ainsi une partie de la terre, celle qu'il s'est acquise par son travail. C'est là l'origine de la propriété individuelle. Évidemment, il a aussi la responsabilité de ne pas empêcher que d'autres hommes disposent de leur part du don de Dieu. Au contraire, il doit collaborer avec eux pour dominer ensemble toute la terre. Alors, je vais reprendre cette citation. La première origine de tout bien est l'acte de Dieu lui-même qui a créé la terre et l'homme, et qui l'a donné à l'homme. Alors, vous savez que la justification la plus classique de la propriété privée dans la philosophie libérale, c'est le travail, justement. Hein, c'est Locke qui dit, ben voilà, il y a l'homme, il y a une situation de pénurie, et puis, par le travail... pour subvenir à ses besoins, ce qui en fait un droit imprescriptible, puisqu'il associe la propriété privée à la satisfaction des besoins de l'homme, il travaille, et donc le fruit de son travail lui appartient. D'accord ? Alors, là, la vision chrétienne, on a vu que le travail arrive comme dans un temps second, hein, comme une réponse de l'homme au don premier. Parce que la situation que décrit Locke, c'est l'homme sur une terre vraiment hostile. L'homme a faim, il n'y a rien, quoi. Donc il faut qu'il travaille. Mais en fait, il ne travaille pas à partir de rien. D'accord ? Donc, en fait, il va transformer des choses qui lui sont offertes, qui lui sont données. Les fruits de la terre, les matières premières. Tout ça, ce n'est pas lui qui l'a mis là. D'accord ? Alors, il y a un pasteur protestant, j'ai oublié son nom, qui justement, en relisant Locke, qui dit si on suit vraiment ce que dit Locke, l'homme qui creuse un trou pour trouver, extraire du charbon, il est propriétaire du trou, mais pas du charbon. Parce qu'en fait, si vraiment c'est juste le fruit du travail de l'homme, en fait, il y a bien quelque chose, sinon il n'y aurait pas le fruit du travail. Il y a bien quelque chose qui précède, qui est donné à l'homme. Et ça, c'est fondamental. C'est une première distinction avec la vision libérale, c'est qu'en fait, il y a un donné qui est premier. Il y a un donné qui est premier. Et l'air que je respire, et l'eau que je bois, et tout ça, c'était là avant que j'arrive. Et je vais m'en servir, je vais le transformer. On a vu qu'ensuite, il y a la réponse de l'homme, qui est ce travail qui va faire porter son fruit à la terre, et en plus, qui est là, qui est en plus une vocation positive de l'homme. Dieu appelle l'homme au travail, parce que première vocation du travail, c'est de transformer l'homme, de le faire grandir. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et du coup, on voit bien, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est que, certes, il y a mon travail, mais il est second. Ensuite, il y a le fait que ce don, il est fait pour tous, pour tous les hommes. Hein. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. C'est donné à tous, pour la subsistance de tous. Du coup, ça veut dire que la propriété privée, elle est ordonnée, pour le dire autrement, à la destination universelle des biens, ou bien commun en fait. Et ce bien commun inclut le fait que chacun ait de quoi subsister. Le pauvre étant celui qui n'a pas de quoi subsister. Le pauvre étant celui qui est vraiment dans la situation de Locke et qui pour qui la mort est très présente et qui ne sait pas s'il vivra demain. Il ne sait pas s'il mangera demain. Et bien cette situation-là, elle est incompatible avec le dessein de Dieu. Vous voyez, c'est très fort. C'est incompatible avec le projet de Dieu. C'est incompatible avec le royaume. Vous voyez ? Ça veut dire que, vous voyez, ça a des conséquences très concrètes. Une tentation du chrétien par rapport à l'enseignement social de l'Évangile et de l'Église, c'est de spiritualiser. On est tous pauvres. Oui, on est tous pauvres. On a tous des pauvretés. On est tous fêlés, un peu fracassés. On a tous des histoires cabossées. Très bien. Mais les gens, quand on parle d'ailleurs de gens en précarité, comme si c'était en équilibre instable, c'est des gens pour qui la mort est à la porte, en fait, qui ne savent pas s'ils vont manger demain. Cette situation-là, elle est incompatible avec le royaume que Dieu désire et avec la finalité de la création. Donc, vous voyez, ça c'est voilà la destination universelle des biens. Et du coup, la propriété privée, alors, elle est défendue par l'Église, hein, la propriété privée, comme un moyen qui correspond bien à l'homme pour parvenir à cette destination universelle des biens. Pourquoi est-ce un moyen qui correspond bien à l'homme ? D'abord, il y a une question de justice, hein, qu'on l'a vu, qui est liée au fruit du travail. Il est juste que je dispose du fruit de mon travail. La question va être, qu'est-ce que j'en fais ? Puisque j'ai conscience que ma propriété, mon droit de propriété sur le fruit de mon travail, on l'a vu, n'est pas absolu. Alors, il n'est pas absolu au moins pour trois raisons. Il y en a que j'ai déjà cité. Hein. Le don premier, la finalité de ses biens, et puis, il y a la dimension collective du travail. Rappelez-vous, cette dimension sociale de l'être humain. Hein, pour un chrétien, l'homme est naturellement social. D'accord ? Il est d'emblée social. Eh bien, en fait, la dimension collective du travail. Je travaille, très bien, mais à partir d'outils, à partir d'un savoir, à partir de choses que je n'ai pas élaborées, je vois très bien que je suis redevable non seulement aux autres, à mes aïeux, aux génies du passé, mais aussi aux techniciens du présent, sans qui je ne pourrais jamais travailler. Je vois bien que le fruit de mon travail, bon, très bien, c'est le fruit de mon travail, mais c'est le fruit, il y a une dimension collective du travail qui est toujours présente. Hein. Le self-made man, c'est une vue de l'esprit, on voit bien ce que ça veut dire comme idéal, ça veut dire c'est une insistance sur la responsabilité personnelle, je me suis saisi de moi-même et je me suis donné dans mon travail, j'ai un effort et je suis parti de rien, etc. Et bien sûr, mais j'ai jamais, jamais fait ça tout seul, ça n'existe pas. D'ailleurs, si on prend le self-made man, c'est-à-dire l'homme qui s'est fait tout seul, ben, cet homme-là, il avait des parents. Hein. Voilà. Donc, il est bien, comme on disait, inséré. Il n'a pas appris à parler tout seul. Il n'a pas appris à écrire tout seul. À écrire peut-être, mettons, si c'est très fort. Mais il n'a pas inventé l'écriture. D'accord ? Donc, voilà. On est, donc, le fruit de mon travail, donc mon droit de propriété sur le fruit de mon travail, il est juste, voilà, il existe. Mais il n'est pas illimité, il n'est pas absolu à cause de l'origine du don, de la dimension collective du travail et de la finalité de ces biens. Mais cette propriété privée, l'Église dit, c'est vraiment un moyen important de la liberté. C'est peut-être la justification la plus massive de la propriété privée. C'est comme une garantie de la dignité de l'homme en respectant sa propre responsabilité et sa liberté. Hein, qu'est-ce que c'est que des droits sans moyens? Hein, si on dit aux pauvres dans la rue, tu as du bol, tu es dans une démocratie, tu peux faire ce que tu veux. Je vais vous dire, j'aimerais bien. Et si ça se trouve, ce pauvre que vous avez croisé dans la station de métro, il a des talents, il a du génie, il a un cœur, il a tout ça, mais il n'a rien. On voit bien que c'est une perte pour le bien commun, pour lui, mais pour l'humanité. Donc, ouais, une liberté sans moyens. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté sans moyens? Donc, c'est ce que dit Jean-Paul II, numéro 30 de Centesimus Annus, « La propriété privée ou un certain pouvoir sur les biens extérieurs assure à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale. Il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. » Il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. Voilà. Alors, je termine sur... finalement, tout ça, ça nous met aussi devant la question de la destination universelle des biens, de la propriété privée. OK, mais alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur ma gestion des biens? On a tous des biens. D'accord? Peu, pas beaucoup, peu importe, on a tous des biens. On a les vêtements qu'on a sur nous, on a peut-être un compte en banque, on a, j'en sais rien, on a un vélo, on a tous des biens. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Alors, il y a une figure biblique qui traverse toute l'Écriture sainte, mais qui est très présente dans l'Évangile, c'est la figure du gérant. La figure du gérant. Pourquoi ? Elle est intéressante, cette figure. Parce que le gérant, il n'est pas à l'origine des biens. Ils lui ont été confiés. Un peu comme nous. On est pour partie à l'origine des biens dont on a la propriété. Clairement. Voilà. Toujours pour partie. Pour une part plus ou moins importante. Peut-être qu'on a hérité, peut-être qu'on a bossé comme un malade, mais rappelez-vous toujours toutes ces conditions qui font qu'en fait, j'allais dire, cette propriété, ce droit de propriété n'est pas illimité. Donc ces biens-là, eh bien, je suis comme un gérant, c'est-à-dire j'en ai la gestion, et l'intérêt du gérant, c'est qu'en fait, le gérant, il sait que donc au fond, ça ne lui appartient pas, donc il doit les gérer comme étant ceux d'un autre. Et nous, en fait, c'est ce qu'on est appelé à vivre, gérer même les biens qui nous appartiennent comme étant ceux d'un autre, parce qu'ils nous viennent de Dieu et puis parce qu'ils sont au service du bien commun. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le gérant, il n'est pas là à vie. Ce n'est pas un héritier. Donc, il y a un moment, il va rendre les comptes de sa gestion. Hein, des plusieurs paraboles où il y a question de, nous, c'est pareil. Parce qu'à la fin à notre mort, comme on dit... on n'est pas enterré avec son coffre-fort. Donc il y a un moment où tout ça ne servira plus à rien. On sera nu comme on est venu dans le monde. D'ailleurs, c'est important à envisager pour avoir un bon usage des biens et pour ne pas vivre dans l'illusion. Donc on est gérant. Mais on est gérant, ça veut dire que le maître, dans les paraboles, lui qui est à l'origine de tout bien et qui nous fait participer à la gestion, ça qui est génial, lui, eh bien, la question c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Parce qu'un gérant, eh bien, dit, mais quel est le projet? Si vous voulez que je gère vos biens, c'est, dites-moi votre projet comme le banquier, expliquez-moi quels sont vos projets, ce que vous voulez en faire, court terme, long terme, vos risques, l'inversion, tout ça. Eh bien en fait, comme chrétien, on ne peut pas se passer de dire, mais en fait Seigneur, qu'est-ce que tu veux? comment est-ce que tu veux que je... Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je gère mes biens? En sachant que la question se pose dès que j'ai plus que ce dont j'ai besoin. Alors évidemment, c'est une question... Un peu la question du nécessaire, on va toujours dire oh, « non, mais moi, le nécessaire... Non, mais ça, c'est nécessaire, ça, c'est nécessaire. » Donc la question du nécessaire, on a vite fait d'en faire un truc incroyable. Non, mais ça, c'est indispensable. Je veux dire, aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans iPhone. Évidemment, la question du nécessaire, elle est vite hypertrophiée. Mais en fait, c'est la question... Alors les pères de l'Église, quand je disais qu'ils sont aiguisés, ils disent « les biens que tu as en plus, c'est la part des autres, en fait. » C'est assez radical, hein. C'est ça que dit l'enseignement de l'Église. C'est qu'en fait, alors la question du coup, c'est de dire, mais ces biens que j'ai en plus, peut-être que je peux les faire servir au bien commun. Et il y a plein de façons de faire servir ce que je possède au bien commun. D'accord ? Je peux le faire servir au travail, je peux investir, je peux être un entrepreneur. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais en fait, s'ils ne servent pas... Alors, il y a Pierre-Yves Gomez, je ne sais pas si vous connaissez, un économiste, un prof de Lyon, là, qui a... qui est aussi à la communauté de l'Emmanuel, qui a lancé le parcours Zaché, qui est un parcours de formation à la doctrine sociale de l'Église. Il dit, lui, il a des formules choc un peu, donc il dit propriété, c'est quoi son truc? Propriété futile, propriété fertile. Qu'est-ce que je possède et qui ne sert à rien? Rien que cette question-là, elle est radicale. Et alors il dit, ouvrez votre placard et regardez ce que vous n'avez pas mis depuis un an. Bon, c'est un exemple, parce qu'il n'y a pas que la question des habits, il y a bien sûr... Mais c'est une vraie question et on est appelé à s'en saisir. Qu'est-ce que je fais de mes biens? Et forcément, il faut que j'entre dans le dessein de Dieu. Et la réponse est différente pour chacun d'entre vous, ça je vous préviens, parce que on n'est pas tous à être gérant, appelés à être gérants de la même façon, selon notre situation. Ben, moi, je n'ai pas de famille à charge, par exemple. Je n'ai pas besoin de mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants, etc. Je veux dire, si à la fin du mois, j'ai zéro sur mon compte en banque, c'est que j'ai réussi. Bien sûr. Merci Florent. Il y a suffisamment de gens qui ont besoin. Non mais moi comme prêtre, je suis logé par ma paroisse. La question de la nourriture, des bouquins, c'est pas cher les bouquins. Mais après, ouais, mon billet de train, quoi. Mais bien sûr que j'ai plus. Alors ben voilà, comment je vais en faire ça? Comment ça va servir? Ben voilà, moi je donne une réponse, mais qui est liée aussi à mon état de vie. Si on est parent et qu'on a des enfants, ben voilà, il y a la question, puis il y a la question des projets familiaux. Qu'est-ce qui est dû à nos enfants? C'est pas une question facile. Et puis nos biens familiaux, notre maison de vacances, je sais pas, si elle sert une semaine par an, faut qu'on se pose des questions aussi. Donc, vous voyez, c'est la réponse, elle va être différente en fonction de notre situation familiale, de nos capacités, de nos appels personnels, de notre vocation personnelle. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment... Donc, en fait, la grande question qui est au cœur de tout ça, c'est celle de la finalité. Et donc, si vous me permettez, j'ai déjà exposé le timing, mais je termine en lisant un petit paragraphe de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12, qui touche à cette question des biens et de la finalité, en fait. Vous connaissez certainement ce passage. Donc, quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Entre parenthèses, ça, c'est vraiment la situation classique du rapport au bien. C'est un peu le test, hein, l'héritage. Évidemment, un héritage, ça cristallise toutes les relations humaines, l'histoire familiale, tout ça. Quand on arrive au clash, mais en fait, c'est un vrai test. Et ce n'est pas anodin, hein, qu'il y a la question de l'héritage. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Puis il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. « Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, littéralement je dirai à moi-même, « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura ? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Voilà, et je vous ai mis préparé parce que littéralement on peut traduire ce que tu as préparé. C'est comme si cette accumulation c'était en vue de quelque chose, mais là on voit que c'est en vue de rien en fait. Et donc ton travail sur cette terre et ton rapport au bien, c'est en vue de quoi ? C'est ça la question. Et là, et Jésus répond à la fin, hein, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Il y a comme la réponse à la fin. Voilà, bon, je m'arrête là. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire, mais merci. Voilà. Bonne question, deux bonnes questions. Je ne sais pas par laquelle je commence. Peut-être par la deuxième, bizarrement, mais en fait, il y a eu une évolution dans la façon dont l'Église s'est positionnée par rapport à la société. Si vous regardez, je pense que le titre de l'encyclique de Jean 23 de 61, je ne sais plus si je l'ai cité quelque part, elle s'appelle « Mater et Magistra ». Parce que l'Église est mère et enseignante. Qui reconnaît l'Église aujourd'hui comme mère et enseignante ? Pas grand monde, d'accord ? Donc en fait, c'est la question, effectivement, se dit, comment est-ce que... Ce qui est intéressant, c'est que le positionnement de l'Église à partir du Concile Vatican II, il est à la fois un positionnement fraternel en disant, on fait partie de la même société, on appartient à la même époque, on a une autorité propre, qui est unique et qui vient de la révélation et de la mission du Christ, que le Christ confie à son Église. Mais vis-à-vis de vous, on vient se présenter avec, j'allais dire, comme des contributeurs, c'est-à-dire avec, de façon vraiment très en vis-à-vis, fraternellement. Donc voilà le trésor qu'on a, et enfin, en tout cas, voilà la façon, voilà ce qu'on peut proposer à la lumière de ce qu'on a reçu. Donc, ça ne veut pas dire que l'Église renonce à son autorité ou sa mission, mais dans le positionnement, et on le voit, il y a plein d'indices, par exemple, donc dans le Concile Vatican II, il y a une constitution qui s'appelle Gaudium et Spes, très importante, qui en fait, par rapport aux autres constitutions conciliaires ou surtout antérieures, en fait, ce positionnement, il est nourri par toute la doctrine sociale de l'Église, et c'est intéressant parce que, par exemple, c'est une constitution de concile, mais qui est adressée au-delà de l'Église. Et donc, on le voit à plein de détails. J'ai dans le texte, par exemple, les auteurs prennent la peine de dire, en fait, pour les chrétiens, donc c'est une constitution de concile, hein, donc, mais dans laquelle on dit, pour les chrétiens, en fait, ça se présente comme ça, et ça, c'est important. Ou alors pour dire, ça, on pense que tout homme peut en faire l'expérience dans son humanité. Donc c'est une façon de... On sent que le texte est pensé pour être adressé à des gens qui ne reconnaissent pas forcément l'autorité de l'Église et la révélation chrétienne, mais qui sont capables, avec une ouverture de cœur et en faisant fonctionner leur raison, d'accueillir ce qu'il y a à accueillir dans cet enseignement. Donc ça veut dire que c'est bien sûr compatible avec la laïcité, à condition de ne pas considérer la laïcité comme surtout ne rien recevoir des religions qui sont forcément là pour exercer une emprise. Mais à partir du moment, surtout comme chrétien, c'est très important, on n'est pas là pour défendre des intérêts catégoriels, comme chrétien dans la société. On est là pour servir le bien commun. Donc ça veut dire qu'on on participe à cette réflexion commune. Donc ça, c'est la première réponse. Et l'autre volet qui est assez important, ce qu'il y a en fait au cœur, bon, ce qui... Ce, ce qui est à la fois l'âme et le grand principe de la doctrine sociale de l'Église, comme de notre foi, c'est la charité, c'est l'amour, qui ne fait pas nombre avec les autres réalités. Alors, en fait, ce que c'est qu'aimer, ou ce que c'est que l'amour, ce que produit l'amour, d'où il vient, ce qu'il produit, etc., tout ça, on le reçoit dans la révélation chrétienne. Et, j'allais dire, ce que c'est concrètement que l'amour aussi, on le découvre dans la personne du Christ. J'allais dire, entre guillemets, c'est très moche, mais qui est la norme de l'amour. Alors, ce qu'il y a au cœur de la doctrine sociale de l'Église, tout est ordonné à ça, tout vise ça. Par exemple, le bien commun, c'est parce que je cherche le bien non seulement du groupe, mais de chacun et de ceux qui sont hors du groupe, et je veux aussi que le bien du groupe, il soit au service du bien de chacun, etc. Donc, toute cette intelligence d'un bien qui est fait pour tous, bon, tout ça, c'est vraiment l'amour qui est au départ. Alors, eh bien, en fait, la charité, j'allais dire, celui qui aime connaît Dieu, quoi. C'est-à-dire que l'amour, on peut en discuter avec n'importe qui. Et les gens sont capables, c'est vraiment, les gens sont capables d'entendre ça. Et vous rencontrerez dans votre vie, et j'ai déjà rencontré des gens qui ne sont pas chrétiens et qui m'édifient par leur charité. Donc ça veut dire qu'ils goûtent et ils connaissent intérieurement quelque chose de Dieu, même si pour eux c'est sans lien peut-être avec la foi ou avec Dieu. Et que du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a le même créateur, on a la même vocation, on est fait pour l'éternité tous. On est fait pour aimer, pour se donner par amour et trouver la joie là. Donc en fait, ça, on le retrouve au cœur de chaque personne. Et on peut entrer en dialogue. Alors, il faut entrer en dialogue à ce degré de profondeur, mais si vous célébrez des obsèques avec des gens qui sont loin de l'Église, bah, au moment des obsèques, ça y est, c'est comme le gérant au moment de tout rendre. On est tout nu. Hein. Enfin, voilà, on est un peu devant la réalité de la vie. Ok, on a compris qu'on n'est pas tout puissant, que, voilà, etc. Et puis on dit, bah, qu'est-ce qui reste de la vie de telle personne, en fait ? Puis voilà, on dit, mais en fait, ce qui reste, c'est la charité vécue, quoi. Enfin, c'est ça, les gens sont capables de le dire et de le reconnaître. Donc c'est ça c'est que la charité, c'est pour ça que je disais que la charité est rationnelle. Ensuite, pour découvrir jusqu'où va la charité, alors déjà pour la reconnaître, j'allais dire pour la citer et la nommer comme l'Orient, entre guillemets, comme la réalité même, c'est une réalité vivante puisque c'est Dieu la charité, mais qui conduit même la vie sociale, ça c'est pas évident du tout, parce que pour la majorité de nos contemporains, l'amour c'est de l'ordre du sentiment, et donc ça a rien à faire en politique. Voilà, même pour des grands philosophes qui vont dire ça a rien à faire en politique. Bon, en fait si, c'est au cœur, mais c'est parce qu'on réduit, on prive du coup la charité de son contenu rationnel en faisant ça, hein. C'est ça qui est dommage. Donc en fait, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour reconnaître et recueillir tout un tas un certain nombre d'orientations, de critères, de directives qui viennent de la doctrine sociale de l'Église. Ça c'est clair. D'ailleurs, il y en a tellement qui ont été repris dans la vie économique et dans la. Enfin voilà, ça prouve bien que voilà, je sais pas, la subsidiarité ou le principe des entreprises à mission ou à vocation, tout ça, c'est des choses qui. Donc on voit bien que ça parle à et c'est tout à fait recevable par des gens qui réfléchissent rationnellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais. Comment ? Ah, est-ce que le principe d'héritage, ah oui, quel regard porter sur le principe d'héritage ? Oui, ça c'est une bonne question, hein. Une grande question, l'héritage. Donc l'héritage, on pourrait dire, c'est, ça fait partie de, alors ça, spontanément, je le mettrais en rapport avec cette question de la gestion des biens pour sa famille, parce que normalement c'est la famille qui hérite, donc ça veut dire que la question de l'héritage, elle touche à recevoir. En fait, recevoir des biens de sa famille, voilà. Recevoir des biens pour lesquels j'ai pas travaillé, qui viennent du travail des autres, mais ça, on a vu que de toute façon, c'était plus ou moins le cas pour tout. Donc, c'est pas ça la question. La question, ça pourrait être, parce que ça pourrait être sur le plan social, voilà, est-ce que cette transmission est légitime ou est-ce qu'elle pourrait pas servir à. En tout cas, l'Église n'est pas contre le principe de l'héritage. Ça, c'est sûr. Après, je pense qu'on peut avoir légitimement différentes façons de regarder la question. Je ne pense pas qu'il y ait de... Il y a des gens qui sont assez extrêmes, hein, qui disent, ben, voilà, on devrait tout prendre et tout redistribuer, et comme ça, tout le monde partirait avec le même capital, ou des choses comme ça. Mais en fait, derrière la question de l'héritage, ce n'est pas qu'une question de moyens. En fait, on le réduit souvent à une question de moyens. Mais les questions d'héritage, on voit bien la question d'héritage. Pourquoi ça pose problème, l'héritage, c'est que des questions relationnelles, hein, et affectives. Et il y a des questions de moyens aussi, hein, derrière, d'argent. Il peut y avoir des questions d'avidité. Les deux sont liés. Ouais. C'est ça. Exactement. Exactement, c'est inséparable. Ouais. Mais je pense qu'il faut garder les deux ensemble. C'est-à-dire que si on dit que c'est qu'une question de moyens, ben en fait on devrait tout prendre et tout. Mais attendez, l'héritage c'est aussi des objets, des propriétés, une histoire, une famille, une entreprise. Enfin, c'est plus large qu'une question de fric en fait. Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est lié à la
Ouais. C'est un bien qui est tout à fait qui est assez symptomatique. Ouais. Non, exactement. Ben, d'ailleurs, on est appelé à être héritier avec le Christ. Donc, c'est quand même fou, quoi, ce que dit notre foi, c'est que ce que le Christ est de toute, enfin, ce que le Fils est de toute éternité, nous, on le devient par le baptême. C'est toutes ces questions d'héritage, etc. Ce qui est très intéressant aussi, hein, je fais lien avec les paraboles sur la gérance, c'est qu'en fait, si on regarde bien dans toutes les paraboles, il est question de passer de gérant à fils. Vous voyez. Et donc, là, il y a la question de l'héritage. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise, enfin voilà, et effectivement, on est héritier avec le Christ, comme dit saint Paul. Ça veut dire qu'on, la vie éternelle, on en hérite, on la reçoit par, gratuitement. Par,
je pense que c'est un concept très complexe.
Ouais. Voilà. Si quelqu'un veut faire une thèse sur l'héritage, moi je suis casé, c'est bon, mais.
Merci.
Merci.